Radio Galère, bonjour. Donc, les actualités de ce matin, avec la nouvelle table de mixage qu'il faut s'y habituer quand on veut parler dans le micro. Voilà. Bon, ben, c'est bien. On va attaquer après un petit peu de retard, qui n'est pas lié qu'à. Ben, qui est le retard de Christine d'habitude. Alors. On commence par l'actualité internationale avec quelques infos en provenance. J'ai oublié une partie de mes infos. En provenance d'Iran, en fait, hein, avec un journaliste, M. Massoud Kazemi, qui a été condamné à 2 ans d'interdiction de s'exprimer sur quelque support que ce soit. Alors, il est en prison, ce monsieur, et sa peine, c'est en fait également 2 ans de prison, sauf s'il verse une énorme caution, de plus de 10 milliards de réals iraniens, donc ça représente plus de 67 000 euros, par exemple, hein, donc c'est une somme inimaginable à payer pour lui pour sortir de prison. C'est ce qui lui reprochait au départ. Il a cru qu'il allait y rester, hein, puisque c'était une atteinte à la sûreté de l'État, etc. Et puis bon, finalement, ça s'est quand même largement réduit, même si le pouvoir n'a pas beaucoup communiqué sur ce qu'on lui reproche. L'Iran reste un pays où la presse est extrêmement surveillée et réprimée. De par le monde. Du côté du Kazakhstan, là aussi, c'est de la répression, mais de la répression à l'occasion de l'élection présidentielle. 3 opposantes viennent d'être placées en résidence surveillée. Alors, il suffit d'être opposante, c'est-à-dire d'avoir participé à une manifestation, hein, pour être ainsi placé en résidence surveillée. Voilà, donc c'est simple, hein, comme ça, il n'y a pas d'opposant. Avant, il y avait au Kazakhstan donc une espèce de dictateur, hein, qui a régné sans partage. Puis il y a maintenant son successeur qui voudrait bien faire pareil, alors que ce sont normalement des premières élections qui devraient avoir un sens. Et bien, tout est fait pour qu'il n'y en ait pas et qu'il n'y ait aucune opposition. On passe à l'Algérie, avec du côté de l'Algérie, Conseil constitutionnel qui a jugé hier que l'élection présidentielle que l'armée, hein, le pouvoir actuel voulait, le système voulait organiser pour le 4 juillet, eh bien, sont impossibles après que ce même Conseil constitutionnel ait rejeté les 2 candidatures qui s'étaient présentées. Bah, c'est en quelque sorte la rue qui gagne, mais elle gagne quoi ? Il lui manque quand même des personnes pour représenter cet immense courant de protestation contre le système en place en Algérie. Pour l'instant, ça manque un peu de figures représentatives. Et de projets en positif. Il y en a certainement, mais sans doute pas encore le dessin d'un accord, d'un projet de constitution, quelque chose d'un peu plus précis qui permettrait aux gens de se prononcer, hein, sur qui ils veulent à la tête de l'Algérie. Donc, en tout cas, l'élection, après cette décision du Conseil constitutionnel, ne devrait pas avoir lieu le 4 juillet. C'est pour l'instant l'armée, hein, qui reste en place. Du côté d'Israël et de la Palestine, une intrusion de nationalistes israéliens sur l'esplanade des mosquées, une intrusion que l'armée israélienne a laissé faire, hein, et qui rompt avec l'habitude qui prévaut depuis fort longtemps, hein, qui consiste à ne pas autoriser de personne autre que musulmane à arriver sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Ça a donné lieu à une colère des musulmans venus prier, à des affrontements, bon, un coup de pierre, hein, avec la police israélienne, avec quelques blessés parmi les manifestants. Et la Jordanie a naturellement protesté contre Israël parce que c'est elle qui est chargée de gérer normalement et qui est responsable, hein, de ce qui se passe sur l'esplanade des mosquées. Toujours en information internationale et dans ce coin-là, en quelques mots sur la Syrie. Alors d'abord, la Syrie où il y a de nouveau des morts dans des combats, et ce sont des tirs israéliens qui ont visé des positions de l'armée syrienne loyale à Bachar al-Assad et qui ont tué... Alors, plusieurs soldats syriens, 4, et également des soldats étrangers de pays de type Iran. Hein. On ne donne pas les nationalités, Iran ou Russie, qui combattent aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Ces tirs israéliens, ce ne sont pas les premiers, ce sont déjà au moins les troisièmes, hein, depuis le début de l'année. Et ils... vise à protester contre des lancements de roquettes hein, qui seraient en provenance du territoire syrien. Alors d'abord, tout ce qui vient en provenance de Syrie n'est pas forcément du pouvoir syrien, mais pour Israël, c'est pareil. Hein, il tient pour responsable le régime. Puis il trouve sans doute que ça faisait un petit peu trop longtemps qu'il n'y avait pas eu assez de morts, hein, du côté de la Syrie. Alors on en rajoute un peu, faut croire. Hein. Et puisque tous les pays y vont et sont allés intervenir militairement, hein, pourquoi Israël resterait en retrait ? Elle se plaint donc de ce lancement de roquettes qui, en plus, sont arrivées sur le Golan occupé par Israël, mais occupé illégalement par Israël et qui, normalement, fait partie de la Syrie. Donc, doublement illégitime, hein, ces tirs israéliens sur la Syrie et visant le régime syrien actuel. Du côté... de Idleb, et en parallèle, eh bien, on a un appel. Mon Dieu, on dirait que d'un coup, il a des sentiments humanistes. Trump, on n'en avait pas beaucoup vu, hein, jusqu'à maintenant. Et donc, il appelle à un arrêt des violences contre les gens qui continuent à se battre contre le régime syrien du côté de Idleb, parmi lesquels il y a des résidus de djihadistes, hein, de groupes armés, et sans doute aussi et encore des civils qui vivent cette guerre. Mais bon, dans l'ensemble, la Syrie a quand même retrouvé... un semblant de paix, hein, sur le reste de son territoire. Quelques mots encore à propos de la Syrie, et ça touchera aussi à la France, avec les camps de réfugiés qui se trouvent en zone kurde et qui sont sous contrôle des milices kurdes. Ils sont 30 000 à être ainsi dans des camps de réfugiés, 30 000 dont 12 000 étrangers qui sont pour la plupart alors soit des familles syriennes de l'EI, hein, soit familles étrangères de djihadistes venus de l'étranger, parmi lesquels donc il y a quelques Français. Alors, il y a des efforts de la part des Kurdes pour négocier avec les villages syriens d'origine de ces réfugiés, de ces familles, pour négocier un retour. Il y avait déjà eu, début mars, 300 Syriens qui étaient repartis après une négociation sur une espèce de surveillance et de réinsertion avec les chefs locaux et les figures locales, les chefs tribaux et les figures locales de leur point d'origine en Syrie. Parce que, bon, c'était quand même des adeptes de l'EI. Là, ce sont encore 800 personnes, des femmes et des enfants, qui vont quitter un des principaux camps gérés par les Kurdes. Et ça repose la question du carré des étrangers, dans lequel se trouvent 12 000 personnes, 4 000 femmes et 8 000 enfants de djihadistes. Avec... à côté de ça, donc, la justice syrienne qui condamne, et la justice irakienne, pardon, la justice irakienne, donc, qui, du côté de l'Irak et des personnes françaises devenues djihadistes et venues combattre en Irak contre... y compris les troupes françaises d'ailleurs et contre les troupes irakiennes et du côté de l'EI, des condamnations à mort parce que en Irak la peine de mort existe toujours. Il y a donc des appels pour éviter de la part des avocats de ces personnes pour éviter pour que la France intervienne pour éviter les condamnations à mort parce que quand on est contre la peine de mort on l'est partout. Et le gouvernement français assure que ces djihadistes bénéficient, comme n'importe quel ressortissant français, d'un accompagnement de l'ambassade pour être informés sur le droit irakien et même leur situation par rapport à la France. Et que la France intervient auprès des autorités irakiennes pour qu'aucune peine de mort ne soit appliquée. Pour autant, que ce soit en Irak ou en Syrie, la France ne souhaite pas récupérer ses ressortissants et les juger en France, du moins au compte-gouttes. L'Irak ne l'a pas vraiment demandé. Par contre, les Kurdes, qui ne savent plus trop que faire de toutes ces personnes et familles dans les camps, le demandent. Et que ce soit la France ou l'Angleterre, ils déclarent préférer que les personnes soient jugées là où elles ont commis des crimes. Bon, ça reste des situations un peu compliquées à gérer dans cette après-crise pour savoir quoi faire des gens. C'est sûr. Du côté de la Ligue arabe, il y a eu donc trois sommets à la Mecque, trois sommets qui n'ont pas satisfait, qui n'ont pas réussi en tout cas à ramener du vrai dialogue entre le Qatar, l'Iran et l'ensemble des pays rangés derrière l'Arabie saoudite. On a donc le Qatar qui dénonce toujours le blocus dont il fait l'objet, l'Iran qui est dénoncé par l'Arabie saoudite comme intervenant à l'encontre de ses intérêts. Alors la grande accusation chaque fois, c'est de soutenir les terroristes, mais bon, chacun soutient les siens de terroristes. On l'a remarqué quand même depuis pas mal d'années maintenant. Pas d'accord en vue, malgré ces trois sommets de la Mecque à une période de Ramadan et où quand même un représentant du Qatar, qui était banni jusque-là des négociations, a pu être présent et discuter. Mais ça n'a pas donné grand-chose. c'est pas forcément bon pour ce qui va se passer dans la région. Bon, on sait qu'il y a le Yémen hein, qui est aussi dans le conflit avec des Houthis soutenus par l'Iran et la coalition menée par l'Arabie Saoudite qui intervient contre ces rebelles Houthis sur le sol du Yémen. On va changer de lieu avec en Grèce, donc le résultat des élections municipales, c'est à l'image des élections européennes et c'est le parti Nouvelle Démocratie, donc la droite, hein, la droite qui gagne les élections municipales en grande majorité, notamment Athènes. Et il y a eu 60% d'abstention dans ces élections. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il n'y a que 40% des Grecs qui sont allés voter. Cette victoire de la droite, c'est sans doute surtout une grosse défaite hein, de Syriza au pouvoir et qui ne va pas y rester au pouvoir. Il lui reste peu de temps pour préparer les élections législatives hein, qui vont suivre bientôt en Grèce. Et voilà, après avoir fait une politique d'austérité en ayant suscité un grand espoir des Grecs pour sortir de ces politiques d'austérité, eh bien, le parti de Syriza le paye cher. Du côté de... Après les européennes, hein, on a aussi du ménage qui se fait. Alors du côté de l'Allemagne, on a la démission de Andrea Nahles, qui était la chef du SPD. Le SPD qui s'est fait placer en troisième position derrière les Verts à l'élection européenne. Et donc qui a été largement désavoué hein, dans ces élections, alors que jusqu'à maintenant, il gouvernait avec la CDU de Angela Merkel dans une coalition gauche-droite contre tout le monde. Donc cette démission, on ne sait pas si elle va aboutir à ce que de nouvelles négociations de gouvernement se fassent en Allemagne et à la fin de cette coalition vaguement de centre. Hein. On peut aussi observer en Allemagne, tel que c'est dénoncé, donc une forte augmentation de l'extrême droite et une forte augmentation des actes antisémites, comme en France, hein, avec une augmentation de 20% donc, des actes antisémites, dont 90% hein, de ces actes est à mettre sur le compte de l'extrême droite en Allemagne, qui n'est jamais qui continue toujours à faire entendre sa voix. On va partir du côté des États-Unis et du Mexique. La nouvelle trouvaille de Trump contre le Mexique, avec lequel il est normalement lié par des accords de libre-échange, tout ça, hein, l'ALENA, vous vous rappelez, c'est d'instaurer des droits de douane. Alors, des droits de douane qui vont augmenter, hein, d'abord à 15%. C'est aussi une sanction du Mexique hein, et du vote qui a porté au pouvoir un candidat de gauche quand même au Mexique. Hein, mais bon, donc Trump veut obliger le Mexique à empêcher les migrants d'Amérique centrale d'arriver jusqu'aux États-Unis. Et pour ça, donc, il veut imposer les produits mexicains en pratiquant une taxe à l'importation donc de 5%, mais qui va augmenter régulièrement jusqu'à temps que le Mexique arrive à arrêter les migrants. On se rappelle hein, de cette crise des pays d'Amérique centrale qui amène des millions de personnes sur les routes à et chercher une vie meilleure plus au nord et qui ont pour beaucoup été reçus au Mexique. Hein. dans des conditions un peu améliorées quand même, qui espèrent en fait passer aux États-Unis et y tenter leur chance. Certains étant passés en groupe, on se rappelle du mur érigé par Trump, du coût de la construction de ce mur hein, et de la bataille qu'ont livré les démocrates au Congrès pour mettre Trump en minorité sur le financement de ce mur hein, en ne votant pas le budget américain. Donc bon, il y a un enjeu extrêmement fort. Tout ça pour empêcher des gens d'arriver sur le sol américain parce qu'ils sont d'Amérique du Sud. Et le Mexique donc se retrouve empêtré dans ce conflit qui vise à saccager son économie parce que ben, beaucoup de produits mexicains sont vendus aux voisins du Nord. Hein. Alors le Mexique a décidé d'aller négocier avec les États-Unis et d'utiliser la voie diplomatique d'une part, et puis de mettre en place, lui qui donnait des visas humanitaires aux migrants pour leur permettant de traverser tout le Mexique, et bien de donner des visas humanitaires qui seraient limités aux États du sud du pays, du sud du Mexique. Ce qui fait que les migrants d'Amérique centrale deviendraient illégaux hein, au fur et à mesure qu'ils monteraient vers le nord du Mexique. Peut-être une manière d'essayer d'absorber au sein du Mexique ce flot migratoire important. Mais bon, on se doute bien que jamais aucun mur n'arrête les humains qui veulent aller quelque part, surtout un exode aussi massif compte tenu de la situation économique qui sévit dans certains des pays d'Amérique centrale. Et quelquefois, les États-Unis en sont aussi assez largement responsables hein, dans leur manière de traiter les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc voilà, situation un peu compliquée donc du côté des États-Unis et du Mexique et utilisation tout de suite hein, des sanctions économiques par les États-Unis contre leurs voisins. Bon, eh ben on va quand même s'écouter une chanson. Qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter La mémoire et la mer avec Léo Ferré. Si ça veut bien.
Petite sœur de mon enfant et de mon signe, un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet. Où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole qui gueule. Dans le désert des goémons de nécropole, je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consume, ô l'ange des plaisirs perdus, ô rumeur d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades. Dans le port, fanfare les corps pour le retour des camarades. Au parfum rare des salants, dans le poivre feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites. Ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle.
Habituellement, je chante cette chanson avec une très jolie.
Galère, et on continue avec les actualités de ce jour. Alors, quelques informations nationales rapidement. Du côté de la France aussi, ça bouge politiquement. Hein. Avec, après les élections européennes, la démission attendue, on va dire, de Wauquiez pour les Républicains. Bon, une démission qui était quelque peu réclamée par d'autres cadres de la droite, hein, après la grosse défaite quand même de la droite en France. Alors, pour les mobilisations de cette semaine à Paris, donc une mobilisation des blessés chez les Gilets jaunes, des mutilés même, avec donc une marche de qui a réuni 300 personnes dans le calme pour dénoncer les mutilations dont ils ont été victimes à cause des armes soi-disant non létales, mais bien mutilantes, en tout cas utilisées par la police française, donc les LBD, et le fait de demander que ces projectiles et ces armes ne soient plus utilisés contre les manifestants. Il y a déjà eu des appels au niveau international en ce sens et la France continue à trouver ça tout à fait normal. D'éborgner, 23 personnes éborgnées quand même, de briser des membres, on ne les compte plus, et des mains arrachées également. Donc des mutilations définitives aussi lorsqu'il s'agit de mains arrachées. Une sorte de polémique assez bizarre, là, pour le coup, contre le ministre de l'Intérieur, Castaner. Je ne vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher, moi. Une jeune femme iranienne mannequin, dont Nexia était arrivée en France en octobre 2018 en demandant l'asile parce que elle risquait de la prison et des coups de fouet en Iran pour avoir posé nu ou posé pas assez habillé, peu importe. Et Elle a déposé une demande d'asile à laquelle l'OFPRA n'a à ce jour toujours pas répondu. Et donc, elle a probablement fait des interventions diverses, notamment écrit au ministère de l'Intérieur ou au ministre de l'Intérieur pour demander une intervention. Et puis, celui-ci a répondu qu'il s'était renseigné et que, bien sûr, l'OFPRA allait examiner son cas que certainement elle aurait droit à l'asile. Bon, rien d'exceptionnel là-dedans. Je trouve ça relativement normal que le ministre de l'Intérieur réponde et qu'il réponde dans ce sens. Alors, il y a une polémique qui prétend sur Internet, qui lui reproche que sa réponse, son tweet est obscène. Il n'a absolument rien d'obscène. Et on comprend pas. Pas trop l'objectif des gens qui dénoncent une intervention qui va dans le bon sens. Alors qu'on dise, ça serait bien que tous les réfugiés soient bien traités et des papiers, c'est une chose, mais qu'on reproche au gouvernement de dire que l'OFPRA va certainement donner des papiers à cette femme, Nexia. Je vois pas où est le problème, moi. Toujours dans l'actualité nationale, je me suis un peu perdue. C'était une lutte sociale dont je voulais parler, mais je retrouve plus où je l'ai mis. C'est pas grave. On va s'arrêter là de toute façon parce que c'est quasiment l'heure et passer. À ce que vous pouvez faire cette semaine sur Mille Bâbords, mais avant et à propos d'actualité locale, peut-être un petit mot sur ce 2 juin qui est passé, c'était hier, auprès des évadés avec l'association Attaque, qui était une après-midi fort sympathique, avec des activités diverses, plusieurs personnes pour y participer et une information sous une forme ludique, tout à fait agréable et vraiment quelque chose à renouveler, on l'espère. Voilà. Alors sur Mille Bâbords, Et l'agenda de cette semaine sur Mille Bâbord, qu'avez-vous ? Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez aller manger à la cantine du midi, à midi. Ce sont les bric-à-brac, l'école des bric-à-brac qui sont au fourneau pour financer leur école. À 18h, à Lache des Cubas, eh ben, c'est la réunion publique mensuelle de l'Assemblée de la Plaine. C'est 9 places Paul Cézanne avec un apéro-débat. À 18h30, à la Casa Consola, vous avez une conférence-débat, La crise du politique, par René Teboul. C'est l'Université populaire Marseille Métropole qui vous propose cette conférence-débat. C'est du sérieux. Sinon, vous pouvez aussi aller à la Cité du Livre, mais c'est pas à Marseille, c'est à Aix. Et c'est à 19h, salle Jules Isaac, 8-10 rue des Allumettes. S'émanciper au travail, un dialogue démocratique est-il possible ? Qui vous est proposé cette fois par l'Université populaire du Pays d'Aix. Le 4 juin, à la Maison méditerranéenne des droits de l'homme au 34 pour Julien, Femmes solidaires Marseille, le MRAP, vous invite au vernissage de l'exposition Notre matrimoine. Donc voilà, allez-y. C'est toujours sympa les vernissages et c'est une exposition dont le titre montre que l'on remet en cause ce qui est aussi du langage courant, le patrimoine. Ben, voilà, ça fait un peu allusion qu'à l'héritage masculin. Toujours mardi, à 19h, à la librairie Transit 45 Boulevard de la Libération, on vous présente un livre dans une librairie. Puissance 4, pas 4, 4. 2 et avec Céline Lesourd. Donc, c'est une plante aux propriétés psychotropes, le 4. Et il est cultivé et consommé dans la Corne de l'Afrique depuis des siècles en toute légalité. Et il suit illégalement à travers le monde les diasporas est-africaines, des étals démarchés de l'Éthiopie à une saisie douanière à Calais. Céline Lesourd suit les trajectoires d'une marchandise ambivalente. Voilà, bon ben ma foi, le 4. Le mercredi 5 juin, c'est un rendez-vous à la rue d'Aubagne. Parce que c'est le 5 juin, après le 5 novembre, donc un hommage aux morts de la rue d'Aubagne pour ce devoir de mémoire de ces personnes mortes dans l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Et puis, le 5 juin, toujours à la même heure, à 18h, si vous écoutez Radio Galère, eh bien, c'est une heure en Palestine avec le collectif Palestine 13. Jeudi 6 juin, c'est au court-circuit, 23 place Notre-Dame-du-Mont, que l'on vous dit le social brûle, réunion de préparation de la mobilisation pour la protection de l'enfance. À 20h à Marseille, au planning familial 106 Boulevard National, un apéro-débat qui vous est proposé évidemment par le planning familial sur comment financer les IVG hors délai. On arrive au vendredi 7 juin et on arrive à l'impatience. Alors ça, c'est 45 Boulevard Pardigon, c'est dans le 4e et c'est une imprimerie. Et c'est l'imprimerie L'Impatience et Mia qui vous propose des expériences de lutte d'anarchistes à Bruxelles depuis 2007. Le même vendredi à 19h au 54 rue Espérandieu, un repas de soutien aux inculpés du mouvement des Gilets jaunes. Parce que il y a des inculpés, manger un morceau ensemble, discuter de l'avenir du mouvement, repas... prix libre 4 euros minimum avec les gilets jaunes de Marseille Centre-Ville au 54 rue Espérandieu. Voilà. Et on arrive au samedi, Allez, bon, le samedi, on va vous le dire aussi. Alors, vous avez les causeries mensuelles du CIRA, hein, le Centre international de recherche sur l'anarchie, 50 rue Consola, qui vous parlera de Kropotkin et l'actualité de l'anarchisme avec Renaud Garcia. À 17h, à l'Annonciade, 15 chemin de la Mure, c'est la dernière guinguette, Bye Bye l'Annonciade, du collectif Chien d'An. Et à 17h30, à Martigues, le rallumeur d'étoiles, qui est Brescon, vous propose une soirée débat, sensibilisation et échange autour des transidentités avec Contact 13, Amnesty Martigues et Transat. Et ben voilà, c'est fini. On vous laisse en musique.